Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de Buzz TV. Nous sommes partis en direct pour plus de 20 minutes d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez le découvrir dans quelques instants, dans lequel se cache un aspect divin, dans la mesure où il parvient à faire l'unanimité dans un pays où chaque sujet, en général, chaque personnalité est une source de clivage. Ce grand professionnel du journalisme qu'on a appelé régulièrement le PPDA suisse a présenté pendant plus de 20 ans le JT du soir sur la RTS, de Poutine à Rouhani, en passant par Polanski, Edward Snowden. Tous ont répondu à ces questions, mais depuis la rentrée, c'est sur une chaîne française qu'il a décidé d'exhiber au grand public son savoir-faire, ce don, ce talent dont lui seul a le secret. Bonjour Darius Rochebain. Merci d'être avec nous. C'est comme ça, vous savez, en France, on aime ou on déteste. Alors nous on aime.
Je profite pendant qu'on aime alors.
Vous êtes là car vous présentez depuis la rentrée la tranche de 20h-21h15 tous les jours sur LCI, un moment privilégié pendant lequel vous recevez en plateau un invité que vous interrogez dans un grand entretien. Ça fait à peu près un mois que vous avez commencé cette émission. Et ce qu'on peut dire, en fait, en toute objectivité, c'est que vous avez une cote incroyable dans un pays comme la France où la critique est quand même souvent très facile et très aisée. Est-ce que vous attendiez un accueil pareil en France, Darius ?
Je touche du bois, je ne sais pas.
C'est du bois, oui, c'est du bon bois, allez-y, vous pouvez.
Non, je suis très content et touché. Et d'ailleurs, en général, vous savez, je suis très surpris de la qualité du journalisme en France. Je trouve qu'on fait beaucoup de faux procès aux journalistes en général et aux journalistes français en particulier. Donc, voilà.
Vous dites ça par rapport à quoi ? Par rapport à la Suisse ou d'autres pays que vous avez vus, d'autres journalistes que vous avez côtoyés ?
De façon générale, je trouve que c'est évidemment à la mode, depuis assez longtemps maintenant, de taper ce journaliste. Et je trouve que, de façon générale, la profession fait bien son travail et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir, en particulier à LCI, mais de façon générale, d'être là.
Et vous êtes là même à l'heure, en dépit des embouteillages parisiens imposés par Anne Hidalgo, bien entendu, une mère que vous avez découvert ici, j'imagine. Vous habitez Paris ou peu à l'extérieur ?
J'ai découvert les charmes du quartier. Alors, vous avez un bar qui s'appelle le Corona,
juste à côté de chez nous. C'est très sympa.
Un lundi de pluie de septembre par 12 degrés, le Corona, on est tout de suite...
Ça met tout de suite dans l'ambiance. Nous sommes en direct, je le rappelle, sur Figaro Live, sur tvmag.com et bien sûr sur la page Facebook de TV Magazine, cette page Facebook sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Quel regard portez-vous sur son style ? Avez-vous déjà regardé sur LCI ? Quel type d'interview ? Quelle personne aimeriez-vous le voir interviewer ? N'hésitez pas à vos questions, vos suggestions, vos remarques. Il répondra à toutes vos questions après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien.
Salut Nicolas, bonjour Darius.
Bonjour.
On démarre tout de suite avec les audiences du week-end. Vous avez choisi quel jour ?
J'ai choisi, comme toujours, samedi. Le samedi, parce qu'on aime faire cocorico ici. C'est la fiction française qui s'impose en tête du classement, avec France 3 qui misait sur Avis de tempête. Cette fiction portée par Blandine Bellavoire, que nous recevions ici sur ce plateau la semaine dernière, a rassemblé 5,3 millions de curieux. Elle doit être contente, Blandine Bellavoire, 25,5% de part d'audience. 1 million de téléspectateurs plus bas, on retrouve TF1 qui poursuivait la 7e saison de The Voice Kids, qui signe un résultat en baisse par rapport à la semaine dernière. France 2 enfile la médaille de bronze avec Surprise, Surprise, cette émission de caméra cachée portée par Laurie Tillman, Donald Jacksman et Tom Villa, divertit 2,3 millions de téléspectateurs. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui est au pied du podium, mais qui est néanmoins en tête de la TNT. Il s'agit de France 5 qui misait sur un nouveau numéro d'Échappée Belle. Cette fois-ci, c'était une escapade signée Sophie Jevillard au Cap-Vert. 802 000 voyageurs ont répondu présent, 3,8% du public.
Échappée Belle qui marche très bien quand même, les vendredis. C'est vrai. Ouais. Maintenant que vous habitez en France, vous regardez, j'imagine que vous avez beaucoup de chaînes. Quel téléspectateur est Darius Rochebain ? Qu'est-ce que vous regardez à la télé, Darius ? Du sport, des séries, des fictions, de l'info, j'imagine, beaucoup ?
Du sport, pas beaucoup. Ouais. C'est un point faible chez moi, entre autres. et de façon générale, varié, quoi. Plus c'est varié, plus j'aime ça. Et
info, puis, documentaire.
Et puis maintenant, j'avoue que, notamment par Twitter, vous avez les petites perles de chaque émission. Ouais. Et puis, je suis comme tout le monde, je ne sais pas, mais comme beaucoup de gens, c'est-à-dire... Souvent, je regarde les meilleurs moments de chaque émission plutôt que l'émission en entier.
Est-ce que vous êtes également un accro aux plateformes de téléchargement qu'on voit maintenant fleurir partout, Netflix, Amazon, Disney Plus ou...
Un peu moins que là, je sens l'âge quand même. Je suis quinquagénaire et je vois. Enfin, il y a des quinquagénaires qui vont beaucoup sur Netflix, mais je suis un peu moins consommateur que les plus jeunes générations. Ouais.
Damien, on continue ces infos médias avec Michel Drucker. Oui. Rassurez-nous, Michel Drucker a subi une opération du cœur.
Effectivement, tout va bien, on vous rassure d'ores
et
déjà.
Merci.
On était inquiets, c'est vrai. Alors, c'est une information que nos confrères du Parisien ont révélée hier matin. L'animateur historique du service public, chef d'orchestre de Vivement Dimanche sur France 2, a subi une intervention chirurgicale samedi matin dans un hôpital de la capitale. Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, a donc donné des nouvelles rassurantes. L'opération s'est bien déroulée, il est combatif, le moral est bon. Alors, que s'est-il passé? Michel Drucker a beau avoir fêté ses 70 ans en septembre dernier, il aime enfourcher son vélo de route pour savourer quelques grimpettes dans les Alpes. Et cet été, il a ressenti quelques signes d'essoufflement inhabituels. Son médecin traitant lui a donc demandé naturellement de lever le pied, de se mettre un petit peu en retrait et surtout de se soumettre à une batterie d'examens plus approfondis qui ont manifestement mis en évidence que ses artères coronaires étaient obstruées. Alors l'opération a donc permis de les déboucher. Michel Drucker va rester à l'écart pendant quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas exactement sa durée. En tout cas, il ne reviendra pas à la télévision le 18 octobre prochain comme c'était initialement prévu. Et en attendant, du coup, France Télévisions a décidé de diffuser des best-of pour pallier son absence.
Michel Drucker a fêté il y a un an, deux ans, je crois, c'était Damien, ses 50 ans de télévision. 50 ans d'Arius Reuters. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui paraît inaccessible pour un Suisse? Vous avez passé en Suisse?
Je l'avais interviewé il y a très longtemps et me rappelle, je trouvais ça extraordinaire. Il racontait que jeune journaliste, il voulait tellement réussir qu'il allait souvent, quand il savait qu'il y avait la salle du conseil, la direction de la chaîne où il était, et il passait juste la tête pour que les gens s'habituent à voir sa tête, alors qu'il n'était rien, il était petit.
Oui, bien sûr, il bossait au service des sports.
Mais il disait, il faut qu'on commence à reconnaître ma tête.
Voilà. Mais ça vous impressionne de durer comme ça? Il a toujours dit que c'était une obsession chez lui, la durée.
C'est Metternich, le grand art est de durer. C'est vrai que c'est ce qui est le plus compliqué. Mais en même temps, je pense que dans le public, il se crée une vraie affection. En réalité, la télévision finit toujours par vous montrer tel que vous êtes. Donc, c'est toujours un miroir de vérité. Je ne crois pas du tout qu'on puisse se cacher. Et plus vous durez, plus les gens vous voient avec vos qualités, vos défauts et vous apprécient, quoi.
Et comme disait Michel Drucker lui-même, il est vendu avec le poste.
Hein. Oui, c'est vrai.
Vous achetez la télé, il y a Michel Drucker dedans, c'est inclus. En tout cas, on lui souhaite prompt rétablissement et qu'il revienne très rapidement. On termine, Damien, avec cette sortie de François Cluzet, le comédien qui n'a pas sa langue.
Ah oui, vous allez voir, c'est gratiné, là, cette fois-ci. On l'a tous entendu, peut-être vous sur Twitter aussi. Ouais. Alors, le comédien, il a accepté l'invitation d'Éric Dussard et de Jade à l'occasion d'un nouveau numéro dont refait la télé sur RTL. Samedi, il se rendait à la radio, notamment pour évoquer son nouveau film Poli, qui sortira le 21 octobre prochain dans les salles obscures. Et voilà, et François Cluzet, il n'a pas la langue dans sa poche. Il a dit ce qu'il pensait, tout le bien qu'il pensait de l'humoriste Jean-Marie Bigard. Ce qui me fait monter sur mes grands chevaux, c'est quand je vois qu'une chaîne d'information comme BFM TV consacre une heure de direct à ce roi des beaufs qui est Jean-Marie Bigard. Je ne comprends pas comment on peut donner une heure d'antenne en direct à un abruti total qui, en plus, vous explique qu'il va peut-être se présenter à l'élection présidentielle avec un mot d'ordre. Je me présenterai pour le peuple au lieu de dire pour les beaufs que je suis. Voilà ce que François Cluzet, alors c'est un petit extrait hein, parce que c'est un peu plus long, voilà ce que François Cluzet a déclaré avant de lui poser une question solennelle en guise de conclusion. Et pépère, oh, il te reste un neurone et tu l'as caché dans ta cave ou quoi? Voilà, c'est un petit extrait.
Bienvenue en France, hein, des humoristes qui se présentent des élections présidentielles. Coluche avait failli le faire en 1981. Déjà, Jean-Marie Bigard a envie de le faire. Est-ce que pour vous, c'est signe que la société, la politique va pas forcément si bien? Même si on sait qu'en Ukraine, hein, un humoriste a été élu président en Ukraine. Hein.
Oui, il y a toujours eu ce genre. Je peux vous raconter une anecdote sur Bigard, une anecdote suisse, c'est que quand il était allé voir le pape Benoît XVI,
avec Nicolas Sarkozy
Benoît
à l'époque. Benoît XVI,
voilà, Bigard, c'était pas tout à fait, voilà, lâcher de salope, etc. Et les gardes suisses, parce qu'évidemment, quand on est suisse, on a de bonnes connexions chez eux, ont essayé de le semer, ils ont essayé de ralentir le convoi pour que Bigard soit un petit peu en retard et qu'on dise désolé, le Saint-Père est déjà en audience, etc. Et ils n'ont pas réussi. Donc,
ils n'ont pas réussi, il a rencontré effectivement.
Et donc il y a eu effectivement cette image incroyable où il y a Bigard qui salue Benoît XVI, on ne sait pas très bien s'il sait qui est Bigard. À mon avis, on lui a quand même fait une fiche. Donc,
Mais si jamais Jean-Marie Bigard se présentait ou peut-être obtenait les 500 signatures préalables à sa présentation, vous l'interviewerez comme n'importe quel homme politique? Ah, ce serait très différent.
Non, on peut interviewer tout le monde. Je dis toujours, à part des extrêmes, disons, qui incitent à la haine, à part ces cas très particuliers et heureusement quand même très rares, on peut et on doit interviewer tout le monde, bien sûr, oui.
C'est notre métier, effectivement, de le faire. Damien?
Ah, c'est fini, Nicolas.
C'est fini pour aujourd'hui.
Il n'y a plus rien sous le coude, mais demain, il y en aura d'autres.
Du croustillant. Hein. Demain, vous nous ramenez quelques scoops. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions sur Facebook Live. Nous sommes en direct pour le Buzz TV avec Darius Rochebrun.
–
Le 20h de Darius Rochebain qui va se soumettre à notre interrogatoire, l'intervieweur interviewé, l'arroseur arrosé. C'est le nom de l'émission, en tout cas, le 20h de Darius Rochebain, que vous présentez tous les soirs, 20h, 21h15 sur LCI. Une tranche au cours de laquelle vous recevez des politiques, bien sûr, mais pas que, hein, également des artistes, des médecins, des personnalités de la société civile. Pour vous, quelle est la définition? On sait que c'est votre marque de fabrique, l'interview. La définition d'une interview réussie, Darius Rochebain, qu'est-ce que c'est pour vous?
Je dirais que c'est quand deux caractères se font face, ouais. Même s'ils ne sont pas du tout à égalité. Moi, l'intervieweur doit toujours se rappeler que l'intéressant, c'est évidemment celui qu'on accueille, pas lui. Mais quand même, il faut que deux caractères se font face. Donc, on pose les questions de l'heure, les questions d'actualité, etc. Mais toujours avec un style qui fait que c'est vous, c'est votre question. Et évidemment, si possible, il faut qu'il y ait aussi beaucoup de caractère chez la personne qu'on interviewe, sinon c'est un peu tiède.
C'est comme un match de foot ou de tennis, il faut que les deux soient bons.
Exactement. Enfin, moi, je me rappelle très bien, je faisais un petit peu de théâtre amateur quand j'étais collégien. Ouais. Et je me rappelle très bien cette illumination. On jouait, vous savez, quand vous êtes amateur avec beaucoup de gens. Et quand vous jouez avec quelqu'un de bon, il faut être vraiment sot pour se dire « Ah, il est meilleur que moi ». Non, au contraire, ça vous porte, quoi. Donc, c'est effectivement le jeu de deux caractères.
Alors, dans votre 20h, Darius, comment vous choisissez les invités? Est-ce que c'est toujours, évidemment, lié à l'actualité, j'imagine? Est-ce que vous essayez de varier un petit peu les plaisirs entre les différentes thématiques, des politiques, des artistes, des gens?
D'abord, on a une petite équipe. Je ne fais vraiment pas ça seul. Petite équipe très efficace, très travailleuse. Et ensuite, vous savez comment c'est, l'événement est roi. Donc, souvent, c'est à 16h, tout à coup, qu'il y a un changement de dernière minute. Mais l'actualité, quand même, est le facteur déterminant.
Damien.
Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur le figaro.fr. On salue Jean-Louis, Shirley qui est là, Véro, Humbert aussi, Mickaël qui est un habitué du Buzz TV. Mais on va prendre une question.
On a des Suisses ou pas encore?
Pas encore. Ça n'a pas trop passé la frontière pour l'instant, mais ça ne va pas
tarder. Il y a un sens commercial, vous voulez avoir quelques... Oui,
on est sur Facebook, le monde.
Il y a un peu de pouvoir d'achat en Suisse, il faut aller draguer là où le pouvoir d'achat est.
On va prendre une question de Sophie qui souhaite savoir si vous auriez pu remplacer Jean-Pierre Pernaut à la tête du 13h de TF1. C'est vrai qu'on vous a annoncé à un moment donné comme un potentiel successeur de Jean-Pierre Pernaut.
À vrai dire, la question ne s'est pas posée
du
tout. Non. Il y a même une forme de démenti. Mais oui. Non, la question ne s'est pas posée du tout. Mais
et vous auriez... Thierry Tuilier, le patron de l'info, a dit tout de suite c'est pas pour Darius.
À vrai dire, je sortais du JT en Suisse. Ouais. Donc, ça aurait été un peu étrange, mais enfin, je n'étais vraiment pas venu là pour ça. Je suis vraiment venu là pour cette émission que je débute seulement, donc c'est très théorique.
Est-ce que c'est surtout le côté région qui vous fait sentir peut-être moins légitime qu'une émission d'interview?
Encore une fois, la question ne s'est même pas posée. Moi, je viens pour cette nouvelle émission, ça fait 3 semaines ou 1 mois, comme vous le rappeliez, donc il n'y a pas du tout eu la question.
Alors, vos interviews, en général, sont des moments toujours très intéressants dans lesquels vous réussissez à extirper des choses, des confidences de vos invités. Est-ce que chaque invité se prépare différemment? Quand vous recevez le professeur Raoult, par exemple, est-ce qu'il y a une discipline à mettre en avant? Est-ce que vous préparez des choses particulières? C'est un invité assez, assez spécial, il faut le dire.
Oui. Qu'est-ce que vous entendez par spécial?
il est particulier, il vient avec ses réponses, comme souvent, et vous avez parfois
c'est ce que
vos questions.
Je viens avec mes réponses. Non, il faut connaître le plus possible l'invité. Plus vous avez potassé, plus vous êtes légitime, plus aussi vous êtes respecté par l'invité. Parce que s'il sent que vous êtes fragile,
ou vous n'avez pas bossé, d'ailleurs. Ouais.
Voilà. Ouais. Et les pires interviews, c'est celles où on n'a pas travaillé, évidemment. Alors après, en plus, il faut être en forme, il faut essayer d'être rapide, enfin tout ce que vous voulez.
Ça vous est déjà arrivé de ne pas travailler une interview?
Oui, bien sûr, c'est arrivé. À tout le monde, vous savez, sur parfois, des passé. Années, dans la Wikipédia. Mais enfin, quand même, j'ai toujours essayé. Même en général, je lis toujours le livre. Et même si vous ne lisez pas de la première à la dernière page, vous essayez quand même de potasser un petit peu.
Est-ce que... pour vous, le plus important, si vous démarrez une interview, c'est d'essayer de sortir de cette sacro-sainte langue de bois qu'on voit partout, notamment chez les politiques, et de vous dire, il faut que je parvienne à sortir des moments de vérité.
Oui, en quelque sorte. Mais je reviens à mon idée de caractère, je pense que c'est quand même partir d'une intuition qu'on a soi. Ouais. Et en général, alors justement, c'est ce qui fait que c'est votre interview. Vous partez quand même de cette intuition-là, plus que d'une vérité théorique qui je ne sais pas si elle existe sur une personne. Vraiment, votre intuition, vous avez envie de faire dire quelque chose.
Alors, évidemment, votre palmarès est long comme le bras, j'allais dire, presque comme le palmarès de Federer en tennis, de Catherine Deneuve à Kylian Mbappé, en passant par Poutine, Assange. Vous avez interviewé beaucoup de gens, très variés hein, au cours de votre carrière. On a l'impression que tout le monde accepte de venir à votre micro. Est-ce que vous avez déjà essuyé des refus assez catégoriques? Et lesquels, par exemple?
Ah bah non, il ne faut jamais parler de ces échecs. C'est... Mais bien sûr, plein de refus, oui. Parfois, ça m'est arrivé, je n'ai pas mémoire exacte, mais... puis après, j'avais très envie, par exemple, d'interviewer Tony Blair. Et puis j'ai essayé. Et puis pour finir, vous savez, c'est le marché. Hein. La cote, il se décote un petit peu, il n'était plus au pouvoir.
Il n'était plus Premier ministre.
Ouais. Puis là, il voulait bien. Hein, voilà. Donc vous avez souvent ce petit rapport de force qui fait que l'offre et la demande évoluent.
Celui que vous avez particulièrement aimé recevoir et interviewer, est-ce qu'il y a une personnalité qui vous a marqué dans tout ça?
Le caractère toujours, les gens originaux, donc ouais. Depardieu, un Macron, parce que c'est aussi un caractère très, très particulier et fort, un Raoult,
ouais.
C'est, encore une fois sans jugement de valeur, hein, mais des gens qui vraiment sortent de la langue de bois d'eux-mêmes. Il n'y a même pas besoin de leur tirer quelque chose parce que ce qu'ils disent est original.
Et ceux que vous avez le moins aimé, on sait que vous avez parlé de Catherine Deneuve qui avait été infecte, ouais. Selon vos mots. C'est ça. Hein.
En dehors, mais l'interview
en dehors,
était
ouais.
Tout à fait,
l'interview était
tout à fait bien.
Ouais. Des gens qui n'ont absolument pas joué le jeu avec lequel ça s'est très mal passé.
Souvent, c'est ce que vous disiez, c'est les gens qui sont en pure promotion.
Ouais.
Et qui veulent simplement alors, moi, j'ai vu
vendre
ça,
leur sous.
J'ai eu un auteur très connu, je ne citerai pas son nom, mais de romans à la mode.
Ouais.
Qui vraiment ne sortait pas, vous pouviez lui dire quelle heure est-il, il vous disait ah oui ça me rappelle mon personnage, page 232 quand Martha entre dans la pièce.
Des un gens français qui veulent...
Oui, français.
Alors, Marc Lévy
Non, je ne citerai pas de nom. Mais il y a des gens comme ça. Alors, évidemment, quand c'est sur 2 minutes, ça va, mais quand quelqu'un vient pendant 20 minutes et qui veut vraiment faire que la promotion de son livre de façon étroite, c'est un peu compliqué.
C'est certain. Damien.
Alors justement, vous parliez de Catherine Deneuve, on va vous faire réagir par rapport à cette interview que vous aviez accordée, enfin que Catherine Deneuve vous avait accordée. Vous avez effectivement déclaré lors d'une interview qu'elle n'avait pas été forcément aimable après cet entretien. Est-ce qu'elle a cherché à vous faire des remontrances? C'est une question de Bénédicte. Est-ce qu'elle vous a recontacté là au cours des derniers jours pour vous dire franchement, là vous êtes allé un peu loin?
Non, d'abord, je suis un tout petit personnage. Voilà. Catherine Deneuve ne va pas m'appeler. Mais
on en a beaucoup parlé. Hein. C'est vrai que ça ne lui fait pas finalement une très bonne publicité.
Moi, j'aime en caractère toujours. Moi, j'aime les caractères. C'est Clémenceau qui disait, c'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, je crois, qui disait il y a de caractère que mauvais.
D'accord.
C'est vrai que si vous avez du caractère, ça se voit et j'aime ça. C'était pas du tout négatif dans ma bouche, quoi. Voilà.
Je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Darius. Vous l'avez également déclaré au Figaro la semaine dernière que vous ne vous interdisiez aucun invité, mais que vous ne recevriez pas de gens qui répandent la haine, on va dire. Cette parole-là, qu'est-ce que vous entendiez par là? À quoi vous faisiez allusion? Ces fameux extrêmes dont vous parliez tout à l'heure, par exemple?
Oui, un extrémiste de gauche ou de droite, ou religieux, de quelque religion que ce soit, qui vraiment est là pour inciter à la haine de manière ouverte, vous ne pouvez pas mener d'interview.
Mais vous comptez là-dedans Marine Le Pen ou Mélenchon,
non,
par exemple?
Non, d'accord.
Vous avez des partis républicains.
Des gens, des extrémistes, mais... Historiquement, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on peut les retrouver sur Internet. Par exemple, Jouvenel, grand journaliste français, avait interviewé Hitler,
ouais.
Qui, à l'époque, jouait le discours de paix. Donc, il disait, moi, je veux la paix, c'est dans les années 30. Et puis, Jouvenel s'était fait rouler dans la farine.
Ouais.
Donc, on peut se faire rouler dans la farine, y compris par des gens très dangereux.
Je voudrais qu'on parle un petit peu des audiences. Alors, évidemment, c'est LCI, hein, c'est à peu près 120 000 téléspectateurs, 130 000 chaque soir. Vous avez doublé la case hein, quand même depuis que vous êtes arrivé. Est-ce que TF1 vous a donné, Darius, des objectifs d'audience? Ou est-ce qu'ils vous ont dit « installe-toi tranquillement, fais ton nid ».
Non, on ne m'a pas fait l'employé du mois.
Non. Mais on vous a fixé des objectifs, on vous a dit…
On est très content déjà d'avoir doublé l'audience qui effectivement est extraordinaire. Et puis ensuite, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc ça dépend aussi beaucoup des invités, ça dépend, l'émission évolue. Mais il est certain que l'audience est extrêmement importante, bien sûr.
Alors évidemment, l'importance des invités, l'importance… des fameux petits buzz. Vous disiez tout à l'heure vous-même être consommateur de moments sur Twitter où on prend ça. Comme vous le savez, aujourd'hui, le buzz, c'est important. Dans TV Magazine, vous aviez déclaré « c'est important, la petite phrase qui fait le buzz,
oui
mais il faut toujours faire attention d'où elle sort et son contexte ».
Oui, et puis qu'elle ait du sens, évidemment.
Ouais.
Il faut qu'il y ait un petit supplément d'âme qui fait qu'elle ait vraiment, vraiment du sens, quoi.
C'est-à-dire que ce ne soit pas juste un clash pour un clash.
Oui, ou que ce soit parfois quand vous voyez les titres qui sont survendus, puis vous cliquez, puis vous vous rendez compte que la personne n'a pas
d'offre.
Ouais. C'est un peu gênant pour tout le monde.
Il y en a beaucoup, oui.
Quand il y a... Alors, j'avais fait l'interview de Fillon, c'était la première interview de Fillon après son échec à la présidentielle de 2017. Et Et par exemple, il avait fait, ça avait fait un petit buzz parce qu'il taclait un peu Macron sur le thème « Moi, j'ai mis beaucoup plus de gens dans la rue ». Et c'était intéressant parce que c'était le Fillon très assumé de droite, très libéral. Enfin, il y avait un peu de sens, quoi. Si c'est du pur, pur buzz, ben évidemment, c'est un peu moins intéressant. Et c'est décevant. On parlait de durée pour Drucker. C'est très important de durer. Donc, si deux ou trois fois, on voit que vous surtitrez pour faire un faux buzz, je pense que la cinquième fois, ça ne marchera pas.
Est-ce que, étant suisse, vous pouvez vous permettre des choses que ne se permettent pas certains journalistes français? C'est la question qu'on se pose toujours. Vous avez un style qui est résolument différent. Quand on vous voit, vous n'avez pas la même façon de faire qu'un Français. Est-ce que vous pouvez faire des choses et vous permettre des choses qu'un Français ne pourrait pas?
Parfois, ça m'est arrivé en plateau, parfois, de voir l'invité qui me flaire un peu en disant « il n'est pas tout à fait comme nous, vous êtes quasi de la planète Mars ». Mais j'exagère un peu, non. Mais c'est vrai que tout léger décalage crée quelque chose d'intéressant, mais ça peut être l'origine géographique. Ça compte toujours, la géographie. Moi, ça me fascine toujours. En 2020, malgré la mondialisation, selon le quartier où vous êtes, selon la ville, etc., 60 km font beaucoup. Bon, mais le décalage peut venir de plein d'autres choses. C'est-à-dire, effectivement, si vous êtes très standard, entre guillemets, c'est moins intéressant. Mmh. Quelqu'un d'un peu canaille ou d'au contraire un peu précieux, quelqu'un d'un peu provocant ou au contraire très arrondi, où l'idéal, c'est d'alterner.
Et vous vous définirez comme un mix de tout ça, Darius? Parce qu'on a l'impression parfois, vous piquez, vraiment comme un serpent, à l'endroit où ça fait mal. Parfois, vous êtes très, très rond. Comment vous choisissez ces moments-là? Comment piquer avec le sourire en étant évidemment pertinent au moment où on le fait?
Moi, je crois en étant honnête. C'est-à-dire, si on sent qu'on veut vous tordre, ça ne marche pas. Donc, il y a une forme quand même de contrat de confiance où moi, je ne suis jamais allé en plateau en me disant « je vais me faire un tel », comme on dit vulgairement. Ça devient malsain, disons. Mais effectivement, on peut alterner des moments très piquants, des moments de compréhensif, entre guillemets, pas de connivence, parce que ça devient absurde. Mais oui, la variété compte beaucoup. Moi, je crois beaucoup que la télévision est le reflet de la vie. Et c'est exactement comme dans un déjeuner, dans une soirée. Si vous dialoguez avec quelqu'un, c'est pas vrai que vous êtes que à charge, que à décharge. Il y a des moments où ça se passe bien, moins bien.
D'accord, voilà. Damien.
Allez, on va prendre une question de Michel sur Twitter qui souhaite savoir quels sont les sujets tabous que vous n'oseriez jamais aborder avec un invité. Est-ce qu'il y en a?
La vie privée, si, non?
Bien sûr qu'il y a des sujets tabous parce qu'il y a une limite, disons. La décence compte toujours. Notre vrai patron, c'est l'esprit du temps. Ouais. C'est ça qui... Voilà. Et souvent, les gens ont la peine à le comprendre parce qu'ils disent « mais qui vous force à dire ou à ne pas dire ?» Alors que plus important que votre rédacteur en chef, plus important que les réactions du mot, c'est cette puissance qui s'appelle l'esprit du temps qui fait que... moi, j'ai vécu ça à l'échelle de mon parcours. Par exemple, quand vous aviez un responsable de grande société, il y a 20 ans, si vous lui demandiez son salaire ou sa prime, vous passiez pour vulgaire. On vous disait « mais... pourquoi tu as posé cette question, Cyril ?» Oui. Je me rappelle très bien, j'avais interviewé un patron de Nestlé, en l'occurrence. Et là, j'avais posé la question à l'époque. Et puis, son chef de presse m'avait donné un coup de poing vraiment assez fort sur l'épaule pendant l'interview en disant « qu'est-ce que c'est que ce con ?»
mais les sujets tabous ne sont pas les mêmes en Suisse qu'en France.
Là, c'était le temps qui jouait simplement. Ouais. C'était il y a, je sais pas, 15 ans. Ouais. Et il y a 15 ans, on considérait que le salaire, c'était encore... Ouais. Maintenant, c'est l'autre extrême. C'est-à-dire, si vous ne posez pas la question du salaire, puis le patron est tout à fait habitué parce qu'il a été chauffé à ça par son coach, on lui a dit, voilà. Donc, l'esprit du temps nous gouverne.
En bon courage en France, hein, parce que l'argent en France, ça reste vraiment... Si quelqu'un vous répond un jour, ce sera un peu un miracle. Alors évidemment, l'information est importante et dans votre émission. Généralement, aujourd'hui, on se rend compte en France, vous avez dû le constater vous-même, que l'information est souvent délaissée au profit de l'opinion. Beaucoup d'émissions d'opinion, on donne ces débats à tort et à travers. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène un peu, on va dire, le bistrot, quoi, qu'on peut voir fleurir un peu sur toutes les chaînes, parfois, forcément, un peu trop?
Pour moi, ce n'est pas le bistrot. Pour moi, c'est un phénomène plus profond et vraiment intéressant. On a vécu...
De débat pour vous, vraiment?
Oui. C'est-à-dire, je pense que la définition même du journalisme a vécu sur l'après-guerre, sur une définition très classique où, effectivement, on donnait le champ et contre-champ, les deux points de vue, etc. Et petit à petit, une part du métier est en train d'évoluer vers ce qu'elle a longtemps été dans les années 30, dans les années 20, etc. C'est-à-dire journalisme d'opinion, où on considère que l'opinion comment dire, détermine les faits que vous allez donner. De bon cœur, souvent de bonne foi. Ce n'est pas du tout que les gens de mauvaise foi essayent de pousser leur idée, c'est qu'ils croient vraiment, de la même façon que l'Humanité ou le Figaro, ancienne période, pas le Figaro d'aujourd'hui, considéraient que défendre des idées de droite ou de gauche, etc., venait avant les faits, en quelque sorte. Et je pense qu'une partie du métier est en train d'évoluer comme ça. Et franchement, je ne sais pas, dans 30 ans, comment ça aura évolué. Est-ce qu'on reviendra à un journalisme d'avant-guerre où le journalisme d'opinion avait plus d'importance que le journalisme de fait? C'est possible.
C'est un peu nouveau à la télévision, en tout cas dans l'audiovisuel. Oui. En presse, il y a toujours eu des journaux, Le Figaro à droite, Libération à gauche, L'Humanité, etc.
Absolument.
Mais en télé, c'est vrai que peut-être Fox News, qui a un peu déteint sur beaucoup d'autres chaînes.
Mais ça répond à une part du public. Moi, j'ai vécu ça aussi en Suisse. Il y a une partie du public, quand vous leur dites, moi, je suis objectif, etc., vous dites, oui, mais bon, okay, ça, on s'en fiche. Les faits, c'est facile à trouver. Nous, on a envie d'opinion, on a envie de panache, on a envie d'adjectifs forts. Voilà. Et c'est une évolution des mentalités. On ne sait pas où ça ira. On ne peut jamais prévoir ce que deviendra la presse.
Damien.
Allez, on va prendre une question de Jean qui souhaite savoir ce que vous retenez de l'interview que vous avez menée avec Vladimir Poutine. Vous êtes partie des rares, effectivement, à vous être entretenu avec...
C'était
avec
en quelle année, Darius?
C'était en 2015.
Ouais. 2015.
Ce que j'ai retenu...
vous en gardez un bon souvenir, en tout cas?
Oui, oui, bon souvenir, parce que c'est quelqu'un de très intense.
Il est impressionnant quand il est face à vous,
Oui, avec en même temps cette espèce de petit air ironique, et puis vous savez, des policiers de très haut vol, évidemment très intelligents, mais qui a toujours l'air de dire « je ne suis pas dupe, je sais, je te connais, je sais d'où tu viens, tu poses tes questions un peu comme… tu poses tes questions, et je me rappelle par exemple un moment qui était assez extraordinaire, au milieu de l'interview, il partait dans une grande tirade, la Russie, etc., et puis ça durait, et comme le temps est toujours compté, avec la main, je lui ai fait ce petit geste comme ça, l'air de dire…
c'est bon.
Ok,
c'est
passons bon. À la question suivante. Et là, il m'a regardé la main avec un petit air, me dire qui est ce petit merdeux qui ose. Et à la seconde d'après, il a eu un petit demi-sourire, l'air de dire bon, d'accord, on s'est compris.
Vous avez demandé à Vladimir Poutine de se calmer, en fait.
Non, mais
d'abréger la réponse, en tout cas, c'est ça.
Vous ne lui avez pas demandé s'il était fou à un moment donné?
Si, à la fin de l'interview, parce que c'était un moment où les services américains, à vrai dire, faisaient beaucoup courir des pseudo-analyses de psychologues, disant il a un syndrome de je ne sais plus quoi. Et puis, je lui ai posé la question. Et là, il avait fait mine aussi de s'énerver, mais mine seulement, parce que tout ça, je pense que c'est quelqu'un qui a vu tellement de choses que...
Et à aucun moment, vous n'avez eu peur.
Vous savez qu'il a cette habitude des agents secrets de mimer un peu vos gestes, c'est-à-dire un peu imiter un peu votre façon de boire, etc., parce que ça crée une forme de confiance
dans laquelle l'invité...
Voilà.
Absolument.
La maîtrise des langues aussi, on l'a fait en français, et je pense... Il parle bien allemand, parce qu'il était en RDA longtemps. Il ne parle pas français bien, mais il le parlait assez pour comprendre le thème des réponses. Et là aussi, il y avait ce petit œil, cette petite lueur dans l'œil, disant « oui, pas besoin de finir ta question,
j'ai compris ce que tu voulais dire ». Alors évidemment, on a vu ces grandes interviews, on a parlé de tout le monde, on n'a pas parlé d'un des plus importants. Vous avez interviewé Dieu en personne. Alors Dieu, en Suisse, il apporte un autre nom, il s'appelle Roger Federer. Évidemment, qu'est-ce que ça fait pour la Suisse d'avoir un champion? Il est aujourd'hui, j'imagine, le Suisse le plus connu du monde, le plus apprécié, le plus populaire. C'est pas complètement fou, c'est vrai, pour un pays comme la Suisse, d'avoir un joueur aussi incroyable.
C'est vrai, il y a un timbre Federer.
Il a un fond timbre à son effigie.
Bien sûr, je crois qu'il y a très peu de vivants. Il y a le pape François avant. Vous allez Place Saint-Marc, vous allez à New York, sur la 5e avenue, vous avez des Federer géants. Et c'est une gloire inouïe, Federer, inouïe. Il en est très conscient, d'ailleurs, évidemment. Moi, j'avais posé la question, est-ce que vous auriez pu être Federer sans la Suisse? Et j'ai senti dans l'œil une petite lueur d'hésitation, parce que par politesse, il a dit non, évidemment, etc. En réalité, c'est un talent tellement exceptionnel qu'il aurait pu être d'un autre pays. C'est hors norme. Mais là, on touche alors à la... Il est très impressionnant intellectuellement. Et de façon générale, les sportifs... j'ai été très impressionné par Mbappé. C'est vraiment une fausse idée que les sportifs sont des bourrins, comme on dit parfois vulgairement, pas du tout.
Ceux qui sont à haut niveau, ils ont quelque chose de plus, de toute façon.
Une intuition, une ruse, dans le meilleur sens du terme.
Damien, on prend une dernière question et on passe à notre rubrique.
On va prendre une question d'Étienne, tout simplement, qui souhaite savoir si la Suisse vous manque.
Bien sûr.
Bien sûr, c'est vrai. Vous avez le mal du pays ou pas? Est-ce que vous avez déjà été dans votre chambre le soir en vous disant « Ma Suisse natale, ma douce Suisse, qu'est-ce qu'elle me manque ?»
C'est pas très loin, mais il y a le confinement en ce moment.
Il y a un peu de complications à cause du Covid, mais enfin, en même temps, non, c'est 3h30 de TGV, donc c'est pas surhumain.
Mais c'est suffisamment loin quand même pour que vous y pensiez souvent?
Oui, bien sûr, elle me manque. Et puis, je suis resté très, très suisse. Je suis très attaché même à ma chaîne d'origine, à la Suisse. Bien sûr, ça compte énormément.
Vous aviez des attaches à Paris?
Peu, à vrai dire. Je suis beaucoup venu à Paris, je connais bien Paris, mais relativement peu. Et je suis d'une génération qui était très suisse-suisse, c'est-à-dire, je dis souvent en riant, par exemple, c'est Suissair qui était notre compagnie nationale qui n'existe plus. Ouais. J'avais ce petit truc un petit peu ridicule des Suisses, cette petite fibre nationale où quand on entre dans un avion Suissair, on se sentait, entre guillemets, on se sentait mieux.
À la maison, quoi.
C'est plus sûr, c'est absurde, il y a des avions qui sont tombés.
Oui, bien sûr, comme les autres.
Mais voilà, c'est ce sentiment absurde que c'est un peu mieux.
Et en tout cas, qu'on se sent à la maison. Merci Darius Rojbin. On passe à notre rubrique de fin, le sucré salé. Sucré salé, c'est notre petit bonbon de fin d'interview. Je vais vous soumettre deux propositions. C'est comme dans la vie, vous avez le choix. Et il faut choisir, ou en tout cas essayer de le faire, si je vous demande ce que vous préférez entre Bruno Le Maire et Didier Raoult. Alors, ça peut être pas forcément là, mais au moins interviewé, par exemple.
Vraiment, ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Je dirais Bruno Le Maire parce que intellectuellement, littérairement, je trouve que c'est une très belle plume, mais Dieu sait si c'est rare, parce que les politiques, souvent, il y a beaucoup d'auteurs qui sont là. C'est vraiment un très bon auteur. Et quand vous avez cette épaisseur intellectuelle, c'est vrai que ça, c'est un plaisir d'interview.
En intervieweur, vous êtes plutôt Caroline Roux, on va dire, du classique, ou Jean-Jacques Bourdin? Du moins classique, on va dire. Vous connaissez un peu les deux.
Oui, bien sûr, j'espère un peu des deux. Comme je vous le disais, je crois qu'il faut vraiment essayer d'alterner, de varier.
Le style Jean-Jacques Bourdin, c'est quelque chose que vous aimez bien regarder?
Ah oui, bien sûr. Il se passe toujours quelque chose, même quand ça devient un truc. Ouais. On est tous pareils. Hein,
d'accord.
Ça devient un truc,
bien sûr.
Mais ça marche. L'histoire du... On pourrait se piéger les uns les autres. Alors là, c'est quoi, le nombre de porte-avions?
Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, ou le prix du croissant.
Voilà, c'est la fameuse question de Françoise Giroud à Giscard, le prix du ticket de métro. Ouais, c'est ce qui marche le mieux. Ou la question à Castex, est-ce que vous avez téléchargé Stop Covid? C'est souvent le détail, comme le diable, qui se cache dans les détails.
Absolument, et qui évidemment fait tout. Plutôt présenter un JT ou faire une interview? Si vous deviez en garder qu'un, j'imagine.
Bon, c'est vraiment... moi, j'ai vécu pendant 20 ans sur les deux exercices. Aujourd'hui, présenter une interview, parce que c'est ce que je fais. Et puis, vous approfondissez un sujet, un personnage. Mais le JT, c'est un exercice très spécial. D'abord, c'est un des rares exercices à la télévision. C'est Labro qui disait ça, où vous regardez vraiment les gens dans les yeux. Mmh. Nous, on se regarde, nous. Alors, on
est... Entre nous, bien sûr.
Voilà. Et c'est très, très spécial de regarder les gens dans les yeux. Et ça crée un rapport très, très particulier, qui est fort.
La Suisse ou la France?
La question de fin, elle est dure.
Non, les deux. Il y a beaucoup de liens entre la Suisse et la France. Et en même temps, c'est pour ça qu'on est très complémentaires. C'est très, très profondément différent. J'ai vécu ça, moi, il y a quelques jours, vous savez, quand il y avait des annonces de Véran sur les mesures anti-Covid. Même si je suis habitué, je sais que la France est la France, je sais que c'est deux mentalités. Quand, quelques minutes après, j'ai entendu des Marseillais, des officiels marseillais qui disaient « on ne va pas appliquer, c'est n'importe quoi », j'ai eu un moment de surprise.
Mais ils disent « c'est la France, c'est ça ?»
Oui, parce que malgré tout, tout en étant habitué théoriquement, en pratique, c'est tellement loin des habitudes suisses. Si vous n'êtes pas d'accord en Suisse, vous dites « oh, je ne suis pas 100% convaincu, j'ai des réserves », etc. Mais quelques minutes après, sans même connaître le détail, rentrer là, dans l'opposition, c'est un autre monde. Quoi.
C'est vrai.
C'est français, bienvenue en France. Merci beaucoup Darius
Rojbin. Merci à vous.
Merci d'être passé nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouve dans le 20h de Darius Rojbin, c'est tous les soirs sur RCI.
Merci.
À 20h, on vous souhaite évidemment une bonne carrière, une belle carrière française.
Merci à vous. Merci à vous de l'accueil.
Merci en tout cas. Et nous, Damien, on se retrouvera demain.
Ben oui, vous avez cité notre invité dans le sucré salé. Figurez-vous, on va rester dans un invité qui s'inscrit dans la ligne de Darius Rojbin, finalement, puisque c'est une intervieweuse politique qui, tous les matins, officie dans les 4V. Elle présente également C'est dans l'air sur France 5. Demain, nous recevrons Caroline Roux, voilà, sur ce plateau.
Ce sera dès 9h30, évidemment, pour un nouveau Buzz TV. Toutes vos questions sont attendues dans l'attente. Passez une très bonne journée. Et à demain pour un nouveau Buzz TV de 9h30.